Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Nous entendrons ce soir le dernier cours que John Chen, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, a consacré l'an dernier aux recherches sur l'organisation religieuse du territoire de Rome. Car, si nous ne connaissons pas vraiment les origines de la ville archaïque, celle attribuée au légendaire Romulus, nous avons appris dans ces cours comment Rome est devenue la cité, c'est-à-dire la ville et le territoire, qui devint un jour le centre politique, juridique et religieux du monde de son temps. Ou, pour reprendre l'expression de Polybe, qui a conquis presque tout l'univers. Les villes et les territoires vaincus par Rome voyaient leur culte se dédoubler. Ils restaient dans le lieu, mais étaient également transportés à Rome. Et là, soit le dieu de la ville vaincue se fondait avec des dieux ou des déesses préexistants, soit il avait son autel propre. C'est Rome qui dirigeait les rites, soit en nommant ou en envoyant sur place ses prêtres ou ses magistrats, tout en respectant les coutumes religieuses locales. Tous ceux, d'où qu'ils fussent, qui dépendaient de la juridiction romaine, avaient de toute façon des cultes communs, comme par exemple les obligations dérivant de l'oracle de Cybèle, qui avait permis aux Romains de gagner la deuxième guerre punique. Cybèle, déesse de la fertilité, partageait avec Jupiter le pouvoir souverain sur la reproduction des plantes, des animaux, des dieux et des hommes. Rome, donc, annexait militairement, mais aussi cultuellement, les territoires vaincus. Bien entendu, tous les rituels étaient extrêmement codifiés, et dans le cours que nous avons suivi hier soir, John Shedd expliquait les interdits et les fondements juridiques qui pesaient sur ces rituels et sur certains de ses prêtres. Ainsi, par exemple, le Flamine de Jupiter n'avait pas le droit de s'éloigner de la ville même de Rome. Du coup, pour permettre à ces trop nombreux interdits d'être parfois transgressés, les juristes romains avaient inventé des fictions juridiques. Par exemple, pour prendre les auspices, la coutume voulait qu'on fût dans Rome. Mais bien entendu, en temps de guerre, il était impossible de rentrer. On instituait donc un lieu, un temple provisoire, qui pour un certain temps était Rome. Ce soir, John Chet conclut en dégageant les principaux points acquis au cours de l'enquête qu'il a conduite dans cette série de leçons. Écoutez.
Ce n'est qu'à partir du IVe siècle avant notre ère que nous commençons à disposer de renseignements historiques et archéologiques exploitables. C'est pour cette raison que j'ai utilisé comme exergue du cours une phrase de mon collègue Henk Versnell. Ce dernier écrit en effet que « origin is not to be identified with meaning ». Il ne faut pas confondre l'origine d'une chose avec sa signification dernière. Il est courant en effet qu'on explique les institutions par le contexte, à Rome dans l'histoire antique, par le contexte dans lequel elles sont supposées être nées. Pour Rome, on fait tout remonter au roi, Romulus, Numa Pompilius ou Servius Tullius, comme si les institutions en question, attribuées à l'un ou à l'autre roi, avaient déjà eu au 8e ou au 6e siècle avant notre ère la forme qu'elles présentent à l'époque historique, si tant est que les rois mystiques aient jamais existé. Les limites du territoire peuvent être interprétées comme le résultat des conquêtes de Romulus, qui auraient ensuite été pétrifiées. Les Ambarvalia sont des rites archaïques, les frères Arval, les Sodales Titii et autres sacerdoces anciens sont renvoyés à l'époque de la fondation de Rome. De ce fait, par le biais d'un raisonnement circulaire impeccable, Les documents d'époque historique sont censés témoigner de l'époque archaïque des institutions concernées et vice-versa. Les Arvals sont roméléens parce qu'ils déclament un carmen antérieur à la fin du IVe siècle environ, ou parce qu'ils se trouvent à un endroit qui correspond à la limite du territoire de la Rome roméléenne, comme l'affirment les historiens de l'époque d'Auguste, et ainsi de suite. En fait, nous l'avons sans cesse constaté, nous ne possédons aucune source qui soit à la fois exempte de soupçons et opératoire pour saisir l'extension du territoire romain archaïque. Car déposer d'une carte des fermes du Latium archaïque ou du Ve siècle avant notre ère ne répond pas à la question de savoir si telle ou telle partie du Latium est romaine à telle date ou non. Ces questions en rencontrent une troisième, celle des lieux de culte. Le seul indice de la présence romaine sur telle ou telle partie du territoire environnant est la présence de lieux de culte. Sur les vignettes des manuscrits d'arpenteurs romains, nous voyons des temples et des autels qui montent la garde aux limites des territoires. Nous savons aussi que bien souvent les cités se disputent les temples qui sont des marqueurs de limites. C'était le cas, nous l'avons vu, à Mécène, en Laconie, ou bien entre Sousse et El Djem, en Tunisie, en Africa romaine, en Tunisie actuelle. Dans la reconstruction qui est faite des limites du territoire romain primitif, c'est la présence de lieux de culte qui est généralement invoquée. Et comme certains de ces temples renvoient, d'après les érudits romains, au passé lointain, la limite du territoire archaïque se trouve de ce fait datée. Nous avons constaté que les choses sont nettement plus compliquées. Notre collègue Adam Zulkowski, nous l'avons vu, conteste l'existence même des sanctuaires de confins sur les territoires de Rome. Cette notion de sanctuaire de confins avait reçu une existence officielle à travers les travaux de Georges Vallée, Piero Guzzo ou de François de Polignac pour la Grèce. Mais comme Tesse Steck, un jeune savant hollandais, auteur d'une intéressante étude sur les lieux de culte et le changement culturel en Italie républicaine, le souligne, pour identifier ces sanctuaires de confins, il faut connaître les confins. Nous savons cependant que ce type de temple existe, parmi d'autres marqueurs, des limites du territoire. Piero Guzzo identifie trois types de limites. Il voit celle qui sépare la ville des terres cultivables, celle qui distingue les terres cultivables des terres non cultivables, enfin celle qui correspond aux frontières des cités. Tant que l'on ne connaît pas les cités, les limites politiques de la cité, on ne peut donc pas parler de sanctuaire de confins. Comment appliquer tout cela au territoire de Rome? Le problème avec Rome est que cette ville devait posséder un territoire originel, ou que l'on considérait comme originel, mais dont nous ignorons malheureusement les limites. Pour certains historiens antiques, c'est une bande de terre limitée à l'ouest par le Tibre et qui va au sud en direction de la mer, jusqu'à des distances variables, pour la plupart jusqu'au 5e, 6e mille. Pour d'autres, c'est un territoire de forme arrondie qui entoure de tous côtés la ville. Mais en même temps, certaines sources démontrent que les limites de ce territoire ont été très rapidement dépassées, et que des lieux de culte romains sont situés bien au-delà de la limite des 5 ou 6 000. Quels sont alors les sanctuaires de confins? Où sont les confins romains? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons d'abord analysé la notion de suburbium, de territoire suburbain, un terme qui sert aujourd'hui à désigner la banlieue plus ou moins lointaine de Rome, avant de nous interroger sur ses limites. Le terme lui-même, nous l'avons dit, est rare au neutre et il existe surtout comme adjectif. L'espace qu'il désigne commence en gros au premier mille des portes les plus anciennes de Rome, parfois un peu plus loin, à la limite du bâti, selon les auteurs et les contextes. Cette limite-là, du premier mille, disons, paraît claire. Elle distingue le territoire urbain de l'extérieur et notamment de l'agre, des terres cultivables, comme dirait Guzzo, qui parle de cités plus anciennes. Cette limite est marquée par certaines coutumes du droit public. Le pouvoir des magistrats romains n'est pas le même à l'intérieur ou à l'extérieur de cette limite du premier mille. À l'intérieur, les magistrats ne possèdent que le pouvoir civil, qui est limité par l'intervention possible d'autres magistrats et des tribuns de la plèbe, ainsi que par le droit d'appel des citoyens contre les décisions des magistrats. À l'extérieur de cette limite du premier mille, le pouvoir des magistrats est absolu et implique le droit de vie et de mort. Celui des tribuns de la plèbe s'arrête à cette limite. Il est indubitable aussi que ce passage est marqué tout autour de Rome par des lieux de culte, comme si l'on avait voulu signaler le commencement de la ville tel qu'il était à la fin du IIIe ou du IIe siècle avant notre ère, par des lieux de culte, comme marqueur de la franchissement d'une limite. L'examen des sources a permis de confirmer cette hypothèse due essentiellement à Giovanni Colonna, mais l'examen a également prouvé que cette limite ne saurait être archaïque. Seuls les mythes étiologiques font remonter ces temples au roi. Sur le terrain, les choses sont bien différentes pour les temples dont les traces ont survécu. Vu de près, cette limite paraît liée à l'extension du bâti de Rome entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère, et elle fut encore utilisée sous Auguste pour signaler la limite entre le pouvoir de commandement absolu, l'imperium militiae aux armées, et l'imperium civil, ainsi que le lieu où s'effectuait la salutation officielle des gouverneurs de retour de leur province. C'est la salutation, par exemple, d'Auguste par le Sénat et les magistrats lors de son retour en 19 avant notre ère des provinces de l'Est, une salutation que ce dernier, enfin qu'Auguste évita d'ailleurs. C'est donc cette salutation qui fut commémorée par la construction au premier mille de l'hôtel de Fortuna Redux, de la fortune du bon retour, à côté du temple de Mars. Donc c'est un exemple que ce symbolisme fonctionnait toujours. Cette donnée étant acquise sous une forme légèrement corrigée, nous avons pu ajouter quelques lieux à cette carte, nous nous sommes tournés vers le problème principal. Si nous connaissons le commencement du territoire de Rome, et notamment la limite de la ville, donc ce premier cercle dont parle Guzzo, nous ne savons rien de ses limites. À vrai dire, nous trouvons dans les textes antiques les informations les plus diverses. Selon certains textes, la partie suburbaine de Rome va même jusqu'à Terracine ou à Spolète, c'est-à-dire à plus de 100 milles de Rome. Nous avons brièvement décrit la banlieue de Rome. Il ne s'agissait plus, à la fin de la République, des terres cultivables, bien sûr. Celles-ci existaient, ça ne pose pas de problème, jusqu'à toucher Rome, mais la banlieue était essentiellement alors une zone de villas de luxe, de jardins de luxe, où l'élite se retirait pour se reposer et vivre loin des tracas de Rome. Ce n'était en aucun cas une banlieue de pauvres et de misérables. Pour dépasser ces considérations générales, qui sont intéressantes, mais ne résolvent pas notre problème, et aussi mettre à disposition les reconstructions dues aux auteurs romains, nous avons envisagé la question du point de vue des lieux de culte. C'est pour cela qu'ils sont très utiles. Il s'agissait moins de retrouver la structuration des habitats du territoire de Rome, suburbain de Rome, autour des lieux de culte, que d'étudier l'emprise publique qui s'effectuait sur ce territoire. Car dans la mesure où nous ne pouvons pas relier, en fait, les lieux de culte en question à des habitats, et où ils semblent, dans la mesure où ils semblent liés à la ville elle-même, lien primaire, n'est-ce pas ? Et non à une communauté rurale comme sur les terres de certaines cités italiques ou en Gaule, dans ces très grandes cités, c'était bien la manifestation de l'autorité de la ville qui était en cause. Ce ne sont pas des paroisses de campagne comme dans nos religions, en aucun cas. La démarche ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le XVIe siècle, les historiens s'appuient sur divers textes pour affirmer qu'il existait entre le 5e et le 6e mille des lieux de culte public qui marquaient la limite introuvable du territoire primitif de la première Rome, que certains érudits de l'époque d'Auguste ont appelé Ager Romanus Anticus. Cette limite est elle aussi considérée comme remontante à l'époque royale et aux premières années de la République. L'argumentation antique se fonde sur des mythes comme celui des Horaces et des Curias, sur l'œuvre de Romulus ou de Numa Pompilius, et sur les déductions fondées sur, mais ça c'est les modernes cette fois-ci, sur un passage de Strabon qui concerne un rite appelé Ambaruia Tusia, que l'on a rapproché des rites célébrés par les Arvales dans leur bois sacré du 5e mille de la Via Campana. Or, à l'exception de ce bois sacré, aucun des autres cultes n'est en fait attesté sur le terrain, sur place, à l'exception du temple de Fortuna à Mouli Ebris vers le 4e mille, dont survit au moins une partie de la dédicace remontant à une restauration par Livy, l'épouse d'Auguste. Tout le reste est un ensemble de spéculations que Adam Zulkowski rejette dans son ensemble et à bon droit. Nous l'avons en effet en grande partie suivi dans cette critique, même si nous la jugeons parfois un peu trop carrée, un peu trop schématique, notamment, on vient d'en parler, dans le rejet du temple de Fortuna à Mouli Ebris de la liste des marqueurs potentiels de cette limite, sous prétexte que le temple se trouve au 4e et non au 5e mille de Rome. Nous y reviendrons et nous verrons que ce temple fournit en fait un indice intéressant pour la solution du problème. L'étude de l'ensemble des sources concernées prouve de manière indiscutable, d'une part, qu'il s'agit de traditions mythologiques, de l'autre, que sur le terrain, pratiquement, comme je viens de le dire, aucun de ces lieux de culte n'est attesté archéologiquement, et notamment à l'époque archaïque. Les seuls qui sont indéniablement connus sont le temple de Fortuna du 6e mille et le bois sacré de Deadia au 5e mille de la Via Campana. Et ces temples ou bois sacrés ne le sont le premier qu'à partir du début du 3e siècle avant notre ère, le second au début de notre ère. Le temple de Fortuna prouve qu'un culte existait à partir de cette date sur la rive droite du Tibre, ce qui est en accord avec la présomption que les Romains n'ont sans doute pas contrôlé la rive droite au point de pouvoir y aménager des lieux de culte permanents tant que la cité étrusque de Veii n'était pas soumise, c'est-à-dire pas avant la fin du 5e siècle avant notre ère. La proposition récente émise par Filippo Coarelli de situer le bois sacré de Robigo, non pas sur la rive droite, mais sur la rive gauche du Tibre, entre la Via Nomentana et la Via Clustumina, sur le territoire des Claudii, la tribu Claudia, d'où la Via Claudia mentionnée sur les calendriers épigraphiques comme site du bois sacré, confirme parfaitement cette constatation, parce que cela fait de la rive gauche, de la rive droite, une rive vide jusqu'à la chute de Veii. Mis à part un seul lieu de culte, le Lucus Furinae, de la déesse Furina, au premier mille de la Via Aurelia. Mais il s'agit là d'une sorte de tête de pont que les Romains avaient sur l'autre rive pour protéger leur guet qui permettait d'accéder à l'autre rive du Tibre et notamment aux salines de l'embouchure du Tibre. Inversement, le temple de Fortuna du 6e mille prouve que, sous la République, il existait bien des lieux de culte à cette distance, donc du 6e, 5e mille, de Rome. Tout n'est donc pas inventé non plus dans cet anneau de lieux de culte à environ la même distance de Rome. L'endroit est même suggestif, la Maliana, car pour qui vient sur la rive du Tibre par la Via Campana des salines de la zone de Porto, le site de la Maliana ouvre la vue vers la plaine de Rome, une sorte de verrou du territoire qui est formé par le dernier contrefort des Monti Portuensi tombant dans le fleuve à cet endroit. Quand vous le franchissez, la plaine de Rome s'ouvre devant vous. Le problème est donc moins simple qu'admis. Tout n'est pas inventé dans la liste des lieux de culte invoqués par les auteurs modernes pour reconstruire la frontière ancienne de la cité de Rome, quand Rome était vraiment une petite cité-État encore. Au moins un des lieux de culte existait, et cela à partir de la fin du 4e siècle et du début du 3e siècle avant notre ère. À ceci s'ajoute qu'à cette date, cette limite n'avait plus un rôle de frontière parce qu'elle commençait à être dépassée déjà largement. On ne peut même pas identifier cette frontière antique d'après les activités des prêtres et magistrats de Rome, puisque ceux-ci sont censés agir à l'intérieur de ces limites, car les actes officiels qu'ils célébraient dépassaient depuis au moins le 4e siècle avant notre ère les limites du 6e mille. Rien n'indique par conséquent que cette limite existait avant le 3e siècle, mais au cours du 3e siècle, elle est déjà dépassée. Donc, vous voyez, un problème assez compliqué. Nous avons cité le cas des cités soumises du Latium, celui des rites du Monte Cavo, de la cité d'Ostie, pour conclure que dès le dernier quart du IVe siècle, plus tard, la ville de Rome était religieusement présente en tant que telle à plus de 18 000 de Rome, et non plus 5 ou 6. Il en existe d'autres traces. Nous avons parlé des matrones qui avaient été convoquées en 207 avant notre ère au Capitole par les édiles, toutes les matrones en deçà de la limite des 10 000 pour participer à une expiation de prodiges. Nous pouvons citer aussi d'autres procurations de prodiges dont nous n'avons pas encore tenu compte. Lisons rapidement quelques exemples des expiations et supplications diverses accomplies par les prêtres, magistrats et matrones de Rome après des prodiges menaçants. À la suite de ces signes menaçants, divers rites destinés à apaiser les dieux sont recommandés, processions, lustrationes, sacrifices, supplications, au cours desquels les citoyens se rendaient dans tous les temples pour s'agenouiller et remercier ou supplier les divinités, selon le cas. Ils faisaient aussi des lectisternes, c'est-à-dire des repas d'apparat offerts aux divinités dans leur temple. Ainsi, pour l'hiver 218-17, donc ce sont les signes avant-coureurs de la Deuxième Guerre punique, nous lisons ceci. Pour les autres prodiges, on déchargea les décemvirs de consulter les livres de la Sibylle. Quant à la pluie de pierre du Picénum, on ordonna 9 jours de sacrifice. On ne sait pas où, mais quand il n'y a pas d'indication, c'est dans la ville. Et à plusieurs reprises, toute la ville fut occupée de cérémonies expiatoires. On fit d'abord des lustrations dans les quartiers de Rome. On immola des grandes victimes aux dieux qui furent désignés. Une offrande en or... Alors jusque-là, on est à Rome. Une offrande en or du poids de 40 livres fut portée à Lanuvium, dans le temple de Junon. Sur l'Aventin, une statue de bronze fut aussi consacrée à cette déesse par les dames romaines, les matrones. On ordonna un lectisterne à Caire, Cervetri, où les sorts s'étaient répétissés, ces baguettes divinatoires, signe très menaçant, et des supplications à la fortune sur le mont Algide, donc en trentaine de kilomètres au sud-est de Rome. Donc vous voyez Cervetri, le mont Algide et Lanuvium, où des magistrats font des dédicaces, suivant le droit romain. En 207, sur la vie des décemvirs, on décréta d'abord pour Jupiter de lui faire un foudre d'or de 50 livres, pour Junon et Minerve de leur donner des offrandes en argent. Pour Junon reine sur l'Aventin, et Junon s'hospita à Lanuvium, de leur sacrifier de grandes victimes, de faire apporter par les matrones versant chacune autant d'argent qu'elles le pourraient sans se gêner une offrande à Junon reine sur l'Aventin, de tenir un lectisterne, de faire verser aux affranchis elles-mêmes pour apporter une offrande à Féronia une cotisation proportionnelle à leurs ressources. Donc encore une fois, célébration urbaine et célébration à l'extérieur. Cela fait, les décemvirs sacrifièrent à Ardé, de nouveau au loin, sur le forum, de grandes victimes, des prêtres romains qui vont sacrifier. En 210, avant notre ère, à Tarquinia était né un porc à visage humain, et dans le territoire de Capène, près du bois sacré de Féronia, nous l'avons visité, 4 statues avaient un jour et une nuit durant sué du sang en quantité. On conjura l'effet de ces prodiges suivant un décret des pontifes par le sacrifice de victimes adultes et on prescrivit un jour de prière publique à Rome auprès de tous les lits de parade des dieux, les lectisternes, et un second dans le territoire de Capène près du bois de Féronia. En 172 avant notre ère, un orage éclata pendant la nuit. La colonne rostrale élevée dans le Capitole pendant la Seconde Guerre punique fut foudroyée depuis le haut jusqu'en bas. Cet événement fut réputé prodige et déféré comme tel au Sénat, lequel ordonna qu'il en fût référé aux haruspices et que les décemvirs consultassent les livres sacrés. Les décemvirs déclarèrent qu'il fallait soumettre la ville à une lustration, donc c'est toujours le même scénario, supplication, obsécration partout, sacrifice de grandes victimes, victimes adultes, à Rome, dans le Capitole et dans la Campanie au promontoire de Minerve. C'est Sorrente, la presqu'île de Sorrente. 10 jours de jeu à organiser sans tarder en l'honneur de Jupiter, très bon, très grand, etc. Deux autres témoignages, enfin, dans ces exemples piqués comme cela dans la masse des expiations qui sont connues, rapportent que des supplications furent ordonnées à tous les citoyens habitant l'Italie. Nous voyons ici encore une fois comment les prêtres et les magistrats sacrifiaient ou font sacrifier ou dédier dans des lieux de culte du Latium qui ne sont pas assez loin de Rome, qui sont assez loin, pardon, de Rome. Lanuvium, Cerveteri, Ardè, Lucus Feronier, le Mont Algide, le Cap Sorrente, de Sorrente, voire toutes les colonies de l'Italie. Mais dans ce dernier cas, c'est un peu particulier, il s'agit d'une injonction concernant en fait tous les citoyens romains. La conclusion de tous ces cultes permanents et ponctuels qui étaient célébrés au nom de Rome, souvent par des magistrats ou des prêtres romains dans des temples situés bien au-delà de la limite du VIe mille, fait apparaître cette limite comme un fossile depuis très longtemps dépassé s'il a jamais existé. D'un autre côté, nous avons vu que les temples installés sur cette limite dataient au plus tôt du dernier quart du IVe siècle avant notre ère. Ça, c'est une donnée certaine. Autrement dit, l'impression s'impose que cette limite du 5e, 6e mille est tout à fait artificielle. Or, en étudiant de près ces sites, certains sites, comme le bois sacré de Deadia, parce qu'il est le mieux connu, et la restauration de certains sacerdoces, comme ceux des Arval encore, des Sodalestiti ou des Caininenses, on est forcé de conclure qu'il s'agissait d'interventions augustéennes. Les institutions culturelles et sacerdotales en question nous ont permis de prouver que les restaurations augustéennes étaient en fait des créations nouvelles faites avec des segments rituels empruntés aux coutumes ancestrales, à tel ou tel rituel qui existait. Une fois qu'une interprétation avait été construite, le sacerdoce et ses coutumes furent créés. Le côté artificiel de ces créations tend à démontrer que l'attachement de ces traditions à la limite des 5 ou 6 000, ou des 4, 5 et 6 000, est aussi artificiel que les mythes éthiologiques ou les cultes restaurés. Autrement dit, la fameuse première frontière du territoire romain est, selon toute vraisemblance, une création de l'époque augustéenne. Nous avons expliqué cette entreprise dans le cadre de la légitimation des pouvoirs d'Octavien et de la volonté de démontrer au plus vite son attachement à la piété ancestrale. Plus rapidement que la restauration de la vie politique, les restaurations religieuses prouvaient en effet la sincérité du dernier triumvir dont la réputation sanguinaire devait en inquiéter plus d'un. À cette fin, Octavien fit sélectionner un certain nombre de traditions et entre autres, il porta son dévolu sur une limite donnée du territoire que l'on considérait, à son époque, à tort ou à raison, ce n'est pas ce qui importe ici, comme la limite du territoire primitif de la ville de Rome. Dans certains cas, il y avait effectivement des cultes installés à cette distance de Rome, la Via Campana, la Maliana, le 4e mille de la Via Latina, la Fortuna Mirabilis, et vous voyez l'intérêt de ce temple qui est à peu près sur cette limite. Les Romains ne s'attachaient pas au problème de l'à-peu-près. Hein. C'est à peu près à cette limite, et ce sont les femmes qui sont là aussi. Dans d'autres cas, c'est possible, comme dans le cas de Robigo ou de Terminus. Seulement, nous ne savons pas si ces temples existaient effectivement avant Auguste sur cette limite. La même chose doit être vraie pour le culte dit, au lieu dit Festoi, Festi, et les autres points où ce même rituel de l'Ambarvia Tussi a été célébré. Cette construction devait prouver qu'Octavien restaurait Rome dans sa totalité, la ville et son territoire, en mettant un terme au désordre, si bien que progressivement, on ne savait plus où s'arrêtait la ville. Lui, il met un terme à ça. Je vous ai cité la perplexité de Strabon. Eh bien, cela, avec Octavien, c'est fini. C'était encore une façon de mettre un terme à la guerre civile et aux prétendues négligences coupables de ses prédécesseurs. C'est ce qu'explique la limite du 5e, 6e mille. Il s'agit d'une création augustéenne qui a dû marquer les esprits et qui a eu la vie longue, puisque cette limite a représenté, jusqu'à l'époque mussolinienne, la limite de la commune de Rome, comme de l'évêché de Rome. L'origine de cette ligne des 4, 5 ou 6 000 se trouve dans un ensemble de données légendaires et peut-être rituelles. Des traditions mythologiques furent combinées avec quelques lieux de culte installés à peu près à la même distance de Rome pour donner ainsi un anneau de rites et de lieux de culte qui définissait sur les grandes routes consulaires, comme on dit, quelque chose comme une frontière de Rome. De ce fait, il ne faut pas être surpris, comme l'est notre ami Adam Zulkowski, qu'un temple du 4e mille fasse partie du réseau. Auguste a utilisé tous les éléments qui étaient à sa disposition en les restaurant ostensiblement, qu'il s'agisse de vrais temples, la Maliana, le 4e mille de la Via Latina, ou de lieux mythiques, de lieux de mémoire, comme le prétendu tombeau des Horaces et des Curias. Tout cela rentrait dans le même dessin. D'autant plus que certains de ces lieux de culte, celui de la Maliana ou de la Fortuna Miliebris, permettaient à Auguste, Octavien et à Livy d'occuper un rôle rituel spectaculaire, de premier plan. Que ces restaurations aient été liées à l'opération de séduction menée par le Triumvir pour conquérir les esprits de ceux qui doutaient de sa sincérité quand il disait qu'il rétablissait la République, eh bien, c'est ce que prouve la date précoce de ces restaurations qui étaient achevées, en fait, en 27 avant notre ère. À la Maliana, par exemple, le calendrier du site fut dédié par un personnage dont le nom n'est pas conservé, mais qui était Imperator. Il peut s'agir des frères Arval Gnaeus Domitius Calvinus, Marcus Valerius Messala Corvinus, Appius Claudius Pulcher ou Sextus Apuleius, qui avaient tous été acclamés imperatores et ont pu recevoir du prince la tâche de consacrer une partie de leurs moyens, de leur butin, à cette restauration achevée au plus tard en 21 avant notre ère, puisque nous savons que les sacrifices des Arval eurent déjà lieu à cette époque-là. Donc c'est nettement antérieur. Et sans doute la restauration eut-elle lieu avant 27, entre 29 et 27, par là, avant l'abandon de l'arrière-plan roméen avec lequel Octavien jouait à cette époque. La même chose est vraie de la réforme des Caeninenses et des rites du mont Albin, dont les fastes prouvent que la restauration date d'avant 27. L'indication de cette année y signale notamment un changement du mode d'enregistrement par rapport aux années précédentes qui avaient été inscrites d'un coup. Désormais, les enregistrements se feront au fur et à mesure, comme sur des vrais fastes, gravés année après année. En outre, nous constatons qu'Octavien faisait préciser, sur ces fastes, s'il avait été présent ou non, et pour quel motif. Ces indications doivent être comprises non comme une flatterie, mais comme une autre proclamation de cette piété qui avait été si négligée par ses prédécesseurs. S'il ne se rend pas au mont Albin, alors qu'il est consul, ce n'est pas par négligence, mais parce que le prince est malade ou alors guerroie en province. Une fois ce point établi, restent deux autres questions. Comment les magistrats ou prêtres romains agissaient-ils sur le territoire italien, loin de Rome, quand on est si loin? Ou en d'autres mots, quelle est l'étendue exacte du territoire romain, de l'Ager Romanus, après tout? La construction augustéenne est-elle si artificielle que nous devions considérer que Rome n'a pas, comme n'importe quelle cité, un territoire propre et que l'Italie ou l'Empire est son territoire? La deuxième question, qui est liée à la précédente, concerne les modalités cultuelles, qui sont celles des sanctuaires, de ces sanctuaires du territoire ou d'Italie. Nous avons vu que Rome agit d'une façon qui lui est propre. À Lavinium, à Lanuvium, sur le mont Albin, des cultes sont mis en commun avec les cités vaincues et désormais concélébrés par les magistrats et prêtres romains associés aux prêtres et aux magistrats locaux. La fiction sera toujours maintenue. Et quand une cité périclitait, ou disparaissait même, c'était désormais des chevaliers romains qui étaient appelés à jouer le rôle des autorités locales du passé. C'est notamment le cas à Lavinium et à Caenina. Rome institue donc dans certaines cités des obligations religieuses urbaines et considère que ces actes se déroulent en fait sur l'Ager Romanus, compris comme l'extension de la ville et non comme l'Empire. C'est le cas dans une colonie comme Ostie ou alors à Antium, Anzio, lors de l'affaire du vœu des chevaliers romains, que nous avons vu, ou plus généralement lors des sacrifices expiatoires ou des supplications, ce qui nous permet de définir l'ager romanus au sens restreint comme l'ensemble des endroits où le peuple romain, par le biais de ses magistrats, ses prêtres, son sénat ou un ordre social romain, et même dans certains cas l'ensemble des citoyens romains, accomplit un acte religieux public, c'est-à-dire un acte souverain. L'ager romanus n'est pas seulement composé de la bande de terrain qui entoure Rome, mais aussi d'endroits beaucoup plus lointains. En témoignent aussi les faveurs accordées par les Romains aux sanctuaires de divinités amies, comme la Vénus du mont Eryx, la mère des dieux de Pessinonte en Anatolie, la Diane Tifatine, qui en font des territoires protégés par Rome. En témoigne aussi la transformation en colonie romaine de tel ou tel grand lieu de culte, comme Lucus Feronier, et puis à Spolète et Hispellum, les sources du Clitumne, ou plus tard, sous l'empereur Claude, à Lucus Angitiae, près du lac Fucin. Cet ager romanus se trouve aussi bien en Italie que dans les provinces, comme les contrôles de l'oracle sibyllin de 205 avant notre ère, effectués par les Quines des Semvires, le prouvent, encore à la fin du IIIe siècle de notre ère. Nous avons vu que cette pratique était, depuis les guerres puniques, au moins habituelle aussi dans les commandements lointains de l'armée, pour ce qui concerne la prise des hospices, et que sous l'Empire, les juristes se réfèrent à cette fiction juridique qui consiste à considérer comme une parcelle de l'ager romanus, proprement dit, un territoire situé hors d'Italie, et comme légalement valide les consécrations ou les enterrements qui s'y étaient déroulés. Cette fiction qui explique aussi en Italie la notion très flexible du suburbium. Au fond, il est là où des activités urbaines ou exécutées par des habitants de Rome se déroulent, que ces activités soient publiques ou privées. Mais les pratiques ne s'arrêtent pas là. En étudiant de près, lorsque les sources le permettent, les célébrations de ces différents cultes du suburbium, nous avons constaté qu'elles sont en général doubles. Dans les cas les mieux documentés, la célébration commence en ville, se continue dans le sanctuaire situé dans le suburbium et se termine à nouveau en ville, du moins pour les exemples qui sont le plus complètement connus. Et il y a des spécificités aussi entre les types de célébrations. N'oublions pas ici les nombreux rites expiatoires qui sont toujours doubles, car aux célébrations effectuées sur le territoire correspondent, nous l'avons vu, toujours des actes religieux accomplis en ville, avant les actes effectués sur le territoire. Il y a des modalités selon les cultes, mais c'est en gros le même scénario qui est attesté. Regardez 217, d'abord une série de dédicaces ou de rites en ville, et puis une série de rites ou de dédicaces en Italie. Même chose pour l'année 217, où il y a toute une série de choses à Rome, mais il y a aussi des choses sur le territoire, 210, 172 avant notre ère. Et il y a d'autres exemples. De cette manière, la célébration liait fortement le lieu de culte à la ville, dont elle proclamait en même temps la souveraineté. Les processions, formelles ou non, affirmaient la souveraineté romaine qui s'étendait sur le territoire. Malheureusement, nous n'avons presque pas d'attestation de procession entre la ville et les lieux de culte. Nous avons quelques attestations, nous les avons vues, mais malheureusement, c'est un déficit, mais ces processions, d'une manière ou d'une autre, devaient exister. Plus tard, ces processions, ces déplacements traduisaient l'attachement de l'empereur et de ses proches à ses coutumes, dont certaines légitimaient même le pouvoir des magistrats supérieurs, puisqu'ils allaient au Monte Cavo et puis 10 jours après à Lavinium pour être pleinement investis. Au-delà de ces célébrations, et souvent en rapport avec les célébrations urbaines de ces rites, la construction à Rome même de sanctuaires destinés aux divinités concernées, correspond à cette volonté de lier des territoires de Rome à la ville. Nous avons vu que, par exemple, Junon de Lanuvina reçoit, la Juno Sospes, un temple à Rome, et ainsi de suite. Et jusqu'à la fontaine Égérie ou la fontaine Juturne qui se retrouve sur la Via Appia ou sur le Forum même et sur le territoire, à Nemi et à Lavinium. De cette manière, par ces déplacements, le centre de gravité des cultes concernés était définitivement déplacé vers Rome, même s'il continuait à être concélébré sur place, comme si ces divinités y avaient toujours existé, elles étaient chez elles aussi. Il va de soi que le territoire proche de Rome comportait également des cultes et des lieux de culte privés. Nous en avons visité quelques-uns, trois en tout, je crois, importants, au 5e mille sur la Via Cassia, au 9e, 10e mille de la Via Labicana, ou dans l'ancien bois sacré de Furina, sur la limite du 1er mille, où nous avons vu un lieu privé, un sérapéum du 4e siècle de notre ère. Il ne faut pas oublier que toutes les villas et tous les jardins de l'aristocratie possédaient ce type de culte et de lieux de culte, qui faisaient eux aussi partie des obligations religieuses romaines. Mais dans la mesure où ces cultes n'ont le plus souvent laissé qu'une inscription, une statue, une chapelle, dans le meilleur des cas, nous ne pouvons pas en dire grand-chose. Nous avons privilégié ici les documents publics pour répondre à une question de droit public, et il n'était pas dans notre intention de faire le catalogue de toutes les divinités qui étaient vénérées sur le territoire romain, proche ou lointain, ni d'énumérer les mille et une dévotions privées des habitants de Rome et de son suburbium. Il s'agit là d'un autre problème qui a sa valeur en lui-même. On peut un jour faire, mais pour l'instant, ce n'est pas notre objectif. Notre promenade dans la banlieue proche et lointaine de Rome nous a une fois de plus confirmé aussi à quel point la religion romaine est utile, voire même indispensable, pour connaître les représentations collectives des Romains. Dans le cas présent, il s'agit de la représentation du territoire, proche ou plus ou moins lointain, et de ses relations avec la ville. Et nous avons vu qu'au-delà de la connotation luxueuse et oisive qui s'attachait au suburbium, ces terres possédaient une caractéristique particulière. Encore au début de l'Empire, le suburbium proche de la ville délimitait manifestement le paysage de la ville de Rome, avec la cité, la ville au cœur de son territoire. Les anciens étaient tellement habitués à cela qu'ils demandaient en quelque sorte d'avoir cette complétude de la ville et du territoire, sinon peut-être ça les gênait, je ne sais pas. Ce paysage qui n'existait plus comme tel depuis très longtemps fut recréé par Octavien à travers cette série de restaurations religieuses dont j'ai parlé. Un anneau de culte et de sanctuaire délimitait désormais le territoire de façon presque idéale, comme une manière presque aussi belle que la vignette de Rome sur la carte de Konrad Peutinger, qui donne de Rome l'image parfaite des cités qu'elle dominait. En même temps, nous avons vu comment les rites religieux conféraient à certaines parties de l'Italie et du monde le statut de territoire romain, qui était juridiquement apte à accueillir les rites de la ville de Rome. Il y a d'une part la guerre romaine en tant que terre du peuple romain conquise, mais où Rome n'exerce pas sa souveraineté précise comme État à tous les instants, et puis il y a des petits bouts de ci, de là, où la souveraineté urbaine de Rome primaire s'exerce, peut s'exercer. Ce sont là, toutes ces représentations que véhiculent les rites religieux. On voit parfaitement, grâce à cet exemple, que la religion collective n'a pas simplement pour objectif de vénérer sur les terres des Romains les divinités les plus importantes. Les rites ne sont pas seulement l'expression de la piété privée et collective. Ce sont aussi des représentations collectives que les éléments concrets des rites exprimaient. Le concret des règles et des rites traduisait et transmettait à qui voulait comprendre un ensemble de données ancestrales, ou voulues telles, concernant le paysage romain, sur les relations entre Rome et ses conquêtes, sur le contexte historique de la piété envers les dieux. Pour qui savait lire la logique implicite de ces obligations collectives, le monde des conquêtes romaines acquérait une forme précise et installait une nouvelle théologie à Rome. Ce sont ces représentations qu'Octavien a su recueillir pour les croiser avec le thème hautement politique de la piété retrouvée, grâce à lui, du peuple romain. Et à y regarder de près, ces obligations condensaient aussi un grand nombre des traditions sur l'origine et l'identité de Rome. Comme l'écrit Alexandre Grandazzi dans un article récent, le paysage religieux du Latium est une sorte de discours destiné à affirmer l'identité romaine. Un discours qui n'est pas énoncé au moyen de proclamations ou de sermons, et qui se trouve inclus, mais qui se trouve inclus dans l'ensemble des obligations religieuses qui sont célébrées. De fait, les assistants pouvaient réfléchir au lieu et à ses particularités culturelles. Ils pouvaient également retrouver des éléments de ces traditions dans les poèmes et les récits concernant les origines et comprendre, si ce n'était déjà fait, l'arrière-plan politique du paysage recréé par Octavien Auguste. Nous ignorons comment cette extension de la souveraineté romaine sur le Latium était ressentie au IVe ou au IIIe siècle avant notre ère. Mais ce n'est pas une chose impossible pour le début de notre ère. Certains exemples bien documentés, comme celui des Arvales, des Caininenses, des Sodales Titii, nous ont permis de pénétrer dans l'atelier des érudits qui avaient conseillé Octavien. Nous avons vu comment ils arrivaient à construire un mythe étiologique autour du souvenir de quelques rites conservés dans des prières, conservés dans des récits, etc., ou autour de lieux de culte réels qui étaient conservés pour traduire toutes ces aspirations. Et l'on touche du doigt la relation qui, ici, dans ce cas précis, qui peut exister entre la mythologie, l'érudition, et la pratique religieuse, ici la restauration religieuse. Une volonté politique existe qui s'exprime dans des créations artistiques qui sont antérieures, souvent contemporaines ou postérieures à une initiative religieuse. En même temps, les sources révèlent l'absence de toute relation nécessaire entre les mythes et les rites. Les thèmes et les jeux mythologiques ont pu inspirer les réformateurs. Ils révèlent un certain nombre de sous-entendus, en tout cas, mais ils ne sont pas une partie du culte. Cela, il ne faut jamais l'oublier. Les récits d'antan se transforment en segments rituels, puisés dans une autre tradition, celle des rites, ceux du lieu de culte en question, ou plus généralement, ceux de la culture rituelle romaine. On sait comment on fait des sacrifices. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Dea Dia, cette divinité qui n'existerait pas si nous n'avions pas les inscriptions des Arvales, et qui peut très bien avoir été combinée par quelques... Elle existait peut-être dans le culte de Cérès comme une des... la matérialisation, de la divinisation d'une des interventions de Cérès, la bonne lumière favorisant la maturité des céréales. Et ensuite, on a pu extraire de ce contexte des traits marquants comme la couronne d'épis portée par les prêtres, etc., qui sont des attributs typiquement de Cérès. C'est ainsi qu'on a pu créer de façon, sans toucher à rien, en utilisant que des éléments ancestraux qui existaient ailleurs, de nouvelles figures divines. En tout cas, tous ces rites demeureraient incompréhensibles si l'on se limitait à la seule lecture des mythes. Si nous lisons la tradition sur les Arvales ou les Caninenses, nous ne comprenons rien à tout cela. Il faut vraiment avoir une autre documentation, celle des rites, qui n'est pas la même. Nous ne serions même pas capables d'imaginer ces rites à partir des mythes étiologiques. Ce sont deux réalités distinctes, mais qui se croisent régulièrement sans se confondre. Le caractère évidemment reconstruit de beaucoup de ces rituels ne les rend pas pour autant artificiels. J'ai dit que toutes ces restaurations étaient artificielles. C'est un terme rapide qui m'a permis de vous faire comprendre tout de suite que c'était des inventions. Quand je vous dis que les rites des Arvales sont artificiels, ça veut dire qu'ils sont inventés par les érudits de l'époque d'Auguste. Mais en même temps, je vous ai montré que ce n'est pas des inventions gratuites, qu'il y avait sans doute des éléments conservés chez les Arvales ou dans d'autres rites, et on a combiné cela de façon tout à fait crédible. Comme dans les autres restaurations religieuses faites par Auguste, les autres prêtrises créées, qui sont tout à fait crédibles et ont été acceptées comme telles par les Romains. C'est ainsi que procédaient les Romains. Ces rites, en tout cas, ces restaurations, ont connu toutes une grande fortune, comme la fameuse limite du 5e-6e mille, en gros, qui a vécu jusque dans les années 30 du siècle précédent. Le culte des Arvales, par exemple, dure jusqu'au début du IVe siècle. Le dernier Arval date de cette époque. Après, on ne sait pas, le site tombe peu à peu en déshérence et il est fermé à l'époque de Théodose, comme celui des autres lieux de culte proches de Rome. Et les féries latines, dont la grand-mère d'Atticus craignait qu'ils ne fussent oubliés à son époque, au milieu du 1er siècle avant notre ère, eh bien, les féries latines étaient encore célébrées à la fin du 4e siècle. La raison de ce succès, de ces restaurations, est qu'elles traduisaient parfaitement la piété romaine. Une obligation ancestrale avait été restaurée. Personne ne s'interrogeait sur la vérité ou l'origine première de cette obligation. Il suffisait qu'elle fût conforme dans ses éléments aux coutumes ancestrales et que cela fût fait selon les formes. J'ai aussi parlé autrefois ici des jeux séculaires qui sont réinventés de la même manière. En cherchant dans les sources, on trouve chez Varron notamment des éléments que l'on retrouve d'une certaine manière dans les célébrations augustéennes des jeux séculaires. Mais ces jeux Auguste ont été recréés d'après un oracle sibyllin, et cet oracle sibyllin donnait une partition rituelle précise qui est clairement composée par le jeune juriste Ateius Capito, qui l'a suggéré, comme Zosime nous l'apprend, au Quindecem Vir, qui était chargé de transmettre l'oracle. Mais tous ces éléments avaient un rapport avec des traditions très vénérables qu'on reconnaissait, même si la fête elle-même, qu'Auguste appelle la cinquième, il y a des petites variations sur les origines de cette cérémonie, de ces jeux, n'ont jamais existé comme telles avant Auguste. Pourtant, tous les Romains considéraient ces jeux comme une grande tradition ancestrale qui continue. Et quand Constantin ne les a pas célébrés, eh bien, ça a provoqué certain nombre de remous, et c'est grâce à ces remous que nous devons un texte littéraire de l'historien Zosime, dans sa nouvelle histoire, qui nous raconte beaucoup de choses sur ces jeux séculaires pour montrer le scandale que cela avait été de ne plus les célébrer. Donc, vous voyez, c'est les Romains à la fois inventent, entre guillemets, mais à leur manière, ils recréent dans un cadre obligé, comme nos juristes peuvent recomposer des textes de la Constitution qui sont dans un cadre fermé et comme tels ne sont pas artificiels, mais ont leur sens propre, mais cela ne les empêche pas d'être inventés.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation, Laetitia Coya. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec la première des quatre leçons données par Timothy Brooke au Collège de France, consacrée aux valeurs et prix dans la Chine des Ming. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.